Aujourd'hui, le Seigneur nous entraîne sur la montagne. Et à la montagne, qu'est-ce qu'il fait? C'est un symbole de la prière, de la contemplation. Et toute la nuit, eh bien, Jésus prie sur cette montagne. Et c'est en descendant qu'il prend ses décisions à la lumière de sa communion avec le Père et l'Esprit Saint. Et il choisit parmi ses disciples, la foule de ses disciples, il en choisit 12. Et il redescend avec eux. Et en bas de la montagne, il y a encore des disciples. Il y a une foule considérable, divisée en deux parties. Il y a des disciples, ceux qui croient en son nom, qui sont déjà convaincus et qui attendent tout de lui. Et puis une foule de curieux, de gens qui viennent parce qu'ils n'ont rien trouvé ailleurs et qu'ils tentent leur chance auprès de ce rabbi dont ils entendent tellement parler pour l'écouter, voir un peu ce qu'il a à dire, se faire guérir et expulser les démons, toutes ces choses que Jésus fait habituellement quand il parcourt les villes et les villages. Donc il y a, ça c'est le contexte, et Jésus se tourne vers ses disciples, nous précise saint Luc. Donc il ne s'adresse pas directement aux gens qui n'ont pas vraiment la foi encore, qui n'ont pas adhéré en tout cas à la parole de Dieu d'une façon radicale. Il s'adresse à ses disciples, mais pas seulement les 12, à la foule des croyants. C'est pourquoi on peut dire en vérité que ce livre que nous entendons ce soir, eh bien c'est pour nous qu'il est destiné. Ce grand discours des béatitudes, eh bien c'est à nous que Jésus l'adresse. Heureux les pauvres. Alors d'abord, ces béatitudes sont certes à prendre aussi au sens littéral, c'est moins qu'on puisse dire, mais pas seulement. Si elles étaient à prendre uniquement au sens littéral, il se serait adressé à l'ensemble de la foule, y compris les incroyants ou ceux qui sont en voie de conversion. Appelons-les les païens pour l'instant. Or, ce n'est pas le cas. Il s'adresse à ses disciples. Donc, il ne faut pas se crisper sur le sens littéral pour dire qu'il suffit d'être pauvre en ce monde, il suffit d'être malheureux en ce monde pour, eh bien, être sauvé, parce que ce n'est pas le cas. Certes, c'est une heureuse disposition puisque la pauvreté, le chagrin nous purifie de tout attachement. Et ça, c'est vrai, c'est une heureuse disposition dans l'ordre spirituel, s'entend pas. Évidemment, ça ne flatte pas la nature, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Jésus ici ne s'adresse pas littéralement aux gens. Les béatitudes, c'est un point à l'horizon, une ligne d'horizon, une direction à suivre. Ce n'est pas un état de vie en tant que tel. C'est important parce que sinon, on risque de limiter la parole de Dieu dans son application. Les pauvres, ce sont ceux qui ne sont pas attachés aux choses de la terre, aux choses matérielles. Ils en usent, comme dit saint Paul, mais dans la liberté, en sachant qu'ils ne sont que des intendants du Seigneur. Donc, pas d'attachement aux choses de la matière, aux choses matérielles ou aux êtres qui sont dans ce monde. Là, c'est Jérémie qui nous avertit. Malheureux celui qui s'attache à un homme. Il aura, tel que Jérémie nous le dit, une existence de démon, de possédé. Il habitera les déserts arides. C'est le cas de tous les possédés. Leur intériorité est un désert sans fécondité, dévasté, tourmenté. Donc, Jésus dit, les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas ces attachements qui les lient à la terre, et qui rend leur âme inféconde. Au contraire, cette pauvreté, cette béatitude évangélique, eh bien, elle est toute ouverture à la transcendance. Et c'est pourquoi, bienheureux êtes-vous, les pauvres. Et les pauvres, ce sont ceux qui accueillent la foi. Quand on accueille la foi, on est appauvri d'une certaine façon du côté terrestre, parce que nos espérances se renversent. Nos espérances se tournent vers un au-delà qui n'est pas de ce monde, et qui est l'éternité, qui dépasse le rideau de la matière inévitablement. C'est l'autre côté du Big Bang, hein, comme disent les physiciens. Donc, c'est le contraire de la malédiction que Jésus lui oppose. La richesse, être un riche, c'est être tellement attaché à la matière et aux êtres de ce monde, eh bien, qu'on en vend son âme, en quelque sorte, qu'on perd son âme. Et ça, il y a des tas de gens qui, sans avoir des fortunes considérables à la bourse, répondent malheureusement à ce critère de la richesse. Parce que la malédiction, comme la bénédiction, est d'ordre spirituel. Elle concerne nos âmes. Donc il y a cette pauvreté évangélique, et qui se traduit bien évidemment dans la vie présente par une certaine sobriété. Il est rare de voir des gens, même avec beaucoup d'argent, ne pas tenir compte de l'Évangile au niveau matériel et n'avoir pas une certaine sobriété dans leur mode de vie, proportionnel. Mais tout de même, ça, forcément, on marque les choses, mais ça n'est pas la destination. Vous voyez, dans les années 70, on a tout un clergé majoritaire à l'époque qui s'est crispé sur le sens littéral. Et Karl Marx était quasiment célébré comme un saint dans l'Église, parce que, soi-disant, il faisait avancer les masses laborieuses. Mais ça ne suffit pas d'être laborieux pour être sauvé. Il faut encore ouvrir son cœur à Dieu, à ce Dieu transcendant, à ce Dieu qui va au-delà de la matière, au-delà du bonheur présent. Ça, c'est quelque chose à dépasser qui nous fait mal. Parce que quand on veut vraiment ouvrir son cœur à Dieu, il faut dépasser l'horizon du bonheur terrestre. On veut tous être heureux ici-bas, et on a raison. Notre nature est faite pour ça, on a été créé pour ça. Mais il y a eu ce péché originel qui est venu tout bouleverser, qui a introduit la mort en ce monde, la mort spirituelle. Et donc, il nous faut dépasser, comme à travers le feu, comme à travers la croix, cette espérance qui nous ferme la transcendance, qui nous ferme la vision d'éternité, être heureux ici-bas, ça devient une prison. Et c'est vrai qu'il faut lutter contre sa nature pour dépasser ce mur et enfin, eh bien, viser le bonheur qui n'a pas de fin. C'est ça, être pauvre selon l'Évangile, selon Jésus. Et il peut bien dire, Jésus, heureux êtes-vous. Parce que là, quand on a cette pauvreté-là, évangélique, pas matérielle, eh bien, on est vraiment heureux, parce qu'on sera sauvé. Heureux ceux qui ont faim. Alors, vous voyez, dans les quatre béatitudes de Luc, il y a un crescendo. Donc là, la pauvreté, on va dire que la ligne d'horizon est dégagée. On peut s'acheminer vers le royaume des cieux en étant pauvre, parce qu'on est libre des attachements terrestres. Avoir faim, c'est un cran au-dessus. On est en état de manque. Et là, c'est le désir du ciel. Quand on est habité par le désir du ciel, et pas simplement la possibilité d'y entrer, comme dans la pauvreté évangélique, bien, cette souffrance, elle provient du manque de Dieu. On voudrait être sans cesse en communion avec Dieu et être sans cesse plus intensément en communion avec lui. Et de fait, les saints souffraient tant et tant de ces périodes d'aridité, de ces périodes où Dieu se taisait, il dormait sur la barque qu'est leur âme, et il se laisse aller et conduire par l'âme elle-même, par l'homme ou la femme. Et il se tait, il dort tranquillement, mais il est là. Mais il ne se fait plus sentir, il ne discute plus suavement avec chacun d'entre nous, et là, on est vraiment dans un état de manque terrible, et le Seigneur s'en sert de ce manque pour nous faire comprendre combien nous avons besoin de lui, et nous faire avancer encore plus vite, car le désir du ciel nous éprône les âmes véritablement vers Jésus. Donc, c'est une souffrance qui est supérieure au simple état de pauvreté. Ceux qui pleurent, heureux ceux qui pleurent. Bon, quand on a faim, on arrive à se maîtriser. Mais quand on arrive à une souffrance plus grande encore, on pleure. Là, ça désigne les âmes qui sont réellement engagées dans le combat spirituel. Elles pleurent pour le salut des âmes, elles pleurent de la douleur même du cœur de Dieu qui voit les âmes en ce monde s'ensevelir vivant dans des tombeaux, le tombeau de la matière, au lieu de naître à la vie, à la parole de Dieu, à la lumière d'en haut. Et ça vraiment, parce que Dieu nous a tous créés, ça fait souffrir le cœur de Dieu. Et ceux qui arrivent à cette étape des béatitudes, eh bien, atteignent un niveau d'intimité avec le Seigneur dont leurs larmes sont la preuve et le témoignage. Ceux-là sont vraiment heureux, ces disciples-là. Heureux vous qui pleurez maintenant. Enfin, la dernière étape, le sommet du cheminement, c'est « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous persécute à cause de mon nom ?» Là, c'est le maximum d'union, de participation qu'une créature peut avoir à l'œuvre de la rédemption. Les apôtres étaient de ceux-là. Ils furent persécutés à cause du nom de Jésus. Et il y en a beaucoup des chrétiens en ce monde aujourd'hui qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. La foi, à ce moment-là, eh bien, elle dépasse notre propre vie. La vie de Jésus devient plus importante que la nôtre. C'est pourquoi c'est le degré maximum. On est persécuté parce qu'on accepte de l'être. On est persécuté parce qu'on ne se cache pas, qu'on rend témoignage au contraire. Et on le fait pour le Seigneur. Donc on aime, on met sa vie entre les mains de Dieu. Voilà les béatitudes. On se rend compte que ce n'est pas des états de vie, c'est vraiment des idéaux. Est pris selon quatre catégories de croyants. À chacun d'entre nous de voir à quelle catégorie nous appartenons davantage. Les malédictions qui leur font face, il y en a trois, puisque la première réunit les deux premières béatitudes, ou répond aux deux premières béatitudes, la richesse. On peut être riche en ce monde, c'est-à-dire tellement attaché à la vie terrestre, à tel point qu'on veut qu'elle n'ait pas de fin. Vous voyez, tous ceux qui imaginent l'éternité, à condition qu'elle soit à l'image de la vie terrestre. L'éternité à condition de banqueter, l'éternité à condition de voyager de planète en planète dans une immensité sans fin. L'éternité à condition d'avoir des tas de larbins autour de soi pour nous servir. L'éternité à condition d'avoir toutes sortes de partenaires sexuels pour nous épanouir. L'éternité pour boire, pour bouffer, pour se perdre. Cette éternité-là, nous la connaissons bien. Dante en reprend, on s'en fait le porte-parole, ça s'appelle l'enfer, avec ses différents degrés et ses bouges. Il n'y a pas... Le riche, c'est celui qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut que des bienfaits de la vie et qui veut jouir de l'existence sans se donner le moins du monde, sans renoncer à quoi que ce soit et dans l'indifférence totale de ce que deviennent les autres à cause de son injustice. Ceux qui rient, ce sont ceux, ça monte d'un cran encore. Ce sont ceux qui sont dans l'ivresse et dans la communion avec les valeurs de ce monde et les choses de ce monde. C'est carrément un état de communion avec la matière. Et ils ne veulent pas entendre parler d'autre chose, sinon d'humanité augmentée, où on pourrait se transférer indéfiniment sur des supports différents pour continuer à exister encore et encore. Et enfin, ceux que le monde loue et célèbre et enterre dans des lieux prestigieux où régulièrement on va faire quelques cérémonies officielles, ceux-là, c'est vraiment, s'ils en sont là, c'est parce qu'ils ont tenu le langage du monde. Et ce monde-ci, tellement fermé à Dieu, ne peut en aucun cas célébrer de tels prophètes. Voilà le bonheur d'un côté et le grand malheur de l'autre. Parce que le grand malheur de l'autre, il est éternel et que la vie humaine est si passagère. Demandons au Seigneur de nous rendre sages. Et parmi la foule de ses disciples, eh bien d'avancer toujours plus dans l'intimité avec lui.